phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et rejoindre le mouvement.
On tire le mouvement.
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You fellow with your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing. All you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus Andronicus was bound to fail. So will you if a Carla get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 4 minutes. Nous sommes le 1er octobre et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, ce soir, on va faire un point sur la situation au Kurdistan. Et notamment, on va parler de la ville de Kobani, qui est actuellement assiégée. On va parler du gouvernement turc qui prend position par rapport au conflit, par rapport à l'État islamique et tout ça. Ensuite, on va faire un point pour contrer la manif pour tous du 5 octobre. Ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça sache » avec une interview qui présentera l'assaut Terre d'Errance. Notre envoyé spécial est allé faire un tour à Calais pour les interviewer. Et ensuite, on parlera de ségrégation au supermarché de Calais et quelques brèves d'évasion en Italie. Voilà.
Et je commence d'abord par deux brèves, donc grève chez les pharmaciens et pharmaciennes. Donc entre 1000 et 1500 pharmaciennes du Rhône sont descendues dans la rue hier, mardi 30 septembre. Ils s'opposent au projet gouvernemental de réforme des professions réglementées. Donc l'État envisage notamment l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral à des non-professionnels, ce qui les énerve beaucoup parce qu'ils parlent qu'il va y avoir plein de suppressions d'emplois, et autoriser la vente des médicaments délivrés sans ordonnance dans les grandes surfaces. Donc il y avait 1000 à 1500 personnes dans les rues à Lyon, et toutes les pharmacies étaient fermées 100%, à part 8 qui avaient été réquisitionnées pour assurer la délivrance des médicaments en urgence. Deuxième brève, un incendie des impôts. Ça s'est passé à Albertville, en Savoie, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier deux départs de feu à quelques mètres d'intervalle sur la façade du bâtiment, probablement dû à des jets de substances incendiaires. Ça, c'est la déclaration du procureur qui pense que le sinistre est d'origine volontaire. Donc, d'importants dégagements de fumée et de suie rendent les locaux inutilisables pour le moment. Ils avaient été inaugurés il y a 2 ans et il y a 50 personnes qui travaillent dans le bâtiment. Une enquête de flagrance pour destruction par incendie a été confiée à l'antenne de police judiciaire de Chambéry.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
Alors, on va faire un tour du côté de Kobané. Alors, pour situer Kobané, c'est une ville dans le Kurdistan syrien, située à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et il s'agit de la 3e ville de cette région du Kurdistan. Alors, depuis le 15 septembre, les combattants de Daesh ou État islamique, en ce moment ils ont plein de noms, mènent des assauts à répétition contre les Kurdes de la région pour prendre possession de la ville. Alors bon, les Kurdes sont habitués à combattre assez régulièrement, sauf que là, en face d'eux, ils se retrouvent avec un ennemi puissamment armé. Daesh a entre ses mains de nombreuses armes russes, américaines, allemandes et françaises, dont beaucoup de blindés, de chars et de lance-missiles sophistiqués qu'ils utilisent dans les villes près de Kobané, dont ils ont déjà pris le contrôle. En juillet dernier, Daesh avait lancé une offensive sur la région de Kobané, mais avait été repoussé par les combattantes et combattants kurdes. Mais cette fois-ci, il semble qu'ils soient revenus beaucoup, beaucoup mieux armés. Alors les Kurdes de la région se retrouvent un peu dans une sale posture. Ce qu'il faut comprendre pour capter un petit peu la situation, c'est qu'ils sont pris en étau avec d'un côté les chars de l'armée turque qui sont pointés sur eux et de l'autre côté les chars de l'État islamique. Alors bien sûr les Kurdes sur place ont aucune confiance dans l'armée turque qui s'est toujours servi du moindre prétexte pour massacrer les Kurdes. Et on ajoute à ça que le gouvernement turc aurait également aidé à financer l'État islamique. Bon, alors certes, pas officiellement, car eux, ils tiennent une posture, et ce qui stratégiquement est vrai dans leur cas, où eux, ils voient Daesh comme une menace réelle pour la Turquie, mais ça les a pas empêchés de financer et armer dans le but de déstabiliser le Kurdistan syrien pour affaiblir la guérilla du Kurdistan turc. En ce moment, au niveau de ce qui se passe un peu sur place, c'est qu'il y aurait presque plus de civils dans la région de Kobané. Au total, il y a 140 000 Kurdes qui se seraient réfugiés en Turquie, mais depuis peu, la Turquie a fermé sa frontière, empêchant toute personne de pouvoir se réfugier à l'intérieur de son pays. Des personnes s'étant rendues sur place ont pu constater que la Turquie empêchait également des combattants venant de Turquie, alors plus précisément des personnes venant du Kurdistan turc, de traverser la frontière pour aller combattre le IS. Bon, ils tentent, hein, ils n'arrivent pas à empêcher tout le monde de rejoindre cette ville. Lundi soir, des activistes syriens ont fait passer l'information qu'un convoi de Daesh composé de tanks et de pick-up armés de mitrailleuses était parti de Raqqa. Raqqa, c'est une ville syrienne située à 180 km de Kobané et serait en train de remonter vers le nord en direction de Kobané. Donc. Du côté de la coalition internationale, les Kurdes ont très très peu d'espoir. Beaucoup accusent les Américains de faire des frappes complètement inefficaces et de faire ces frappes dans cette région juste pour tenir une espèce de posture en disant on vous aide, mais au final, ça, eux, des témoins sur place disent qu'ils frappent plutôt des immeubles vides plutôt que de frapper des colonnes de chars qu'on voit très bien dans qui arrivent sur la ville sans spécialement se camoufler, quoi. Malgré tout ça, beaucoup de militants du monde entier sont venus en soutien dans la région pour prendre part au combat. Car Kobané est un peu symbolique, c'est le berceau de la révolution kurde syrienne, où avait été mis en place un système assez égalitaire pour le peuple. Et donc c'est parce qu'il est hors de question que Daesh prenne une ville dans le Kurdistan et qu'il déstabilise les autres régions kurdes voisines que les combattants kurdes affluent et sont prêts à tout pour défendre leur région. Aujourd'hui, dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien, donc, les Kurdes ont réussi, ça c'est pour la bonne nouvelle, à reprendre la ville de Rabia à la frontière syrienne.
Et ben, je continue en parlant de des positions d'Erdogan, chef du gouvernement turc, qui parle d'envoyer des troupes en Syrie et en Irak contre les djihadistes de l'État islamique et pourrait laisser utiliser ses bases par les pays de la coalition conduite par les États-Unis. Donc ça, c'est un peu la déclaration entendue aujourd'hui et relayée par les médias. Mais la question, c'est, comme toi tu l'as posée aussi, quel devenir pour les Kurdes, et notamment les Kurdes de Turquie. Et parce que cette déclaration va sûrement aussi permettre d'occuper encore plus le Kurdistan et laisser encore moins la place de vivre aux Kurdes. Donc des chars turcs sont déjà disposés au bord de la frontière, et mais pour l'instant ils n'ont pas agi, mais ils sont là. Le gouvernement turc a transmis mardi soir au Parlement un texte qui autoriserait Ankara à ordonner une action militaire pour, je cite, « déjouer les attaques dirigées contre notre pays par tous les groupes terroristes en Irak et en Syrie ». Il demande au Parlement d'élargir les mandats actuellement en vigueur permettant à la Turquie de frapper les activistes kurdes dans le nord de l'Irak et de se défendre contre toute menace émanant des forces du président syrien Bachar al-Assad. Je cite, le Conseil des ministres a décidé de demander la permission du Parlement d'envoyer, si nécessaire, les forces armées turques aux pays étrangers pour des opérations et interventions transfrontalières et de positionner les militaires étrangers en Turquie pour les mêmes objectifs. Donc ça, c'est ce qui a été précisé par un communiqué. Les parlementaires devraient se prononcer assez rapidement, ils le font très rapidement, puisqu'il va y avoir un vote demain à l'Assemblée. Et cette proposition devrait être approuvée compte tenu de la forte majorité dont dispose le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, le parti conservateur au pouvoir. Donc face à cette nouvelle guerre, Erdogan tente de gagner du terrain sur l'anéantissement des Kurdes, et par ses déclarations, on le voit bien, parce que cette déclaration, elle vise pas que l'État islamique, elle vise vraiment aussi les groupes armés, donc les Kurdes. Et donc, en effet, les Kurdes dans cette région se battent pour leur autonomie et un Kurdistan autonome de la Turquie. Et Erdogan, là, continue à jouer sur deux terrains, donc à être l'allié des Occidentaux en parlant d'ouvrir ses bases militaires aux soldats de la coalition menée par les États-Unis, et lutter contre, activement contre le PKK en renforçant au Parlement des décrets contre les groupes armés. Et pour précision quand même, c'est que le Kurdistan turc a 1200 km de frontière avec l'Irak et la Syrie et a accueilli depuis 2011 1,5 million de réfugiés syriens.
Et du coup, pour préciser un peu ce qui se passe, du coup, il y a quand même une espèce de grosse mobilisation partout en Europe pour soutenir... pour qu'il y ait quelque chose qui se passe à Kobané, que les pouvoirs publics prennent position par rapport à ça. Et du coup, plus localement à Lyon, actuellement, se tient un rassemblement place de l'hôtel... Alors je sais plus si c'est
place Bellecour.
Non, il me semble que ça devait être place Bellecour, mais finalement c'est soit place de l'hôtel de ville, soit vers plus côté d'Opéra, ça je sais pas exactement. Ça va être tous les jours côté de 18h30 ou 18h à 20h. Et voilà, ça va être tous les jours jusqu'à samedi. Et samedi, il y aura une grosse manifestation dont on connaît pas encore le parcours, ni l'heure. Mais voilà.
En tout cas, c'est des rassemblements pour faire de l'information sur ce qui se passe.
C'est ça, du coup, avec des personnes informées et du coup des Kurdes qui ont plus d'infos concrètes qu'on pourrait avoir dans les médias. Et du coup, si vous êtes intéressé et pour venir en soutien, on vous invite fort à aller y faire un tour.
Et ben, on va en profiter pour mettre une petite chanson de Rosé, Identité.
Retrouve-toi seul, sans tes origines, renvoie-les à tes ancêtres. Juste pour un moment, le temps de te retrouver, seul, sans une couleur de peau et sans une religion. Envoie ça à tes ancêtres, juste le temps de te trouver, seul. Retrouve-toi seul, sans ton pays, Prends un moment pour être ni de la politique, ni de la géographie. Tu n'es pas un contexte et tu n'es pas une situation. Tu n'as qu'un contexte et tu crées les situations. Alors retrouve-toi, seul. Retrouve-toi seul, sans tes amis, sans l'affection, sans le groupe. Tu n'es pas le groupe parce que le groupe n'est pas un. Et les guerres intestines ne touchent pas tes intestins. Alors retrouve-toi, seul. Retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Ils ne le sont qu'à cause d'une histoire de groupe, ou de situation, ou de pays, ou d'origine. Alors retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Le sexe est un outil, c'est un détail. Le genre est une posture, c'est un rôle. Tu n'es pas un détail et tu ne prétends pas jouer un rôle. Alors retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Retrouve-toi seul, sans ton prénom, sans ton nom. Mets-les de côté pour pouvoir t'observer sans que ce soit eux qui te servent de reflet. Sans leur connotation, sans leur sonorité. Renvoie ça au langage, juste le temps de te retrouver seul. Retrouve-toi seul, sans ton visage. Tu le vois par les yeux des autres, mais sans eux tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Ne les laisse pas te modeler, te remodeler. Tous ces déguisements qui rendent l'intérieur inaccessible et si étrange à soi-même jusqu'à en avoir peur, de regarder dans son intérieur et de ne voir que du vide et de tomber, parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a aucun artifice assez solide à l'intérieur où l'on pourrait se rattraper. Alors on a peur d'être seul, comme si on avait peur de soi-même.
Contre la manif pour tous du 5 octobre. Donc l'organisation All Out a lancé une pétition en réplique à la manif du 5 octobre organisée par la manif pour tous à Paris et à Bordeaux. C'est bien, ils vont pas venir à Lyon, ça va faire des vacances. Et donc leur objectif, c'est faire signer par plus de 200 000 personnes une pétition contre ce rassemblement anti-gay, ils le nomment comme ça. Et c'est un groupe de lobbying au Laout, du coup ils font un peu leur job. Donc je vous lis un peu des choses qu'on peut lire sur leur site. Si nous rassemblons 100 000 Français pour l'égalité avec une pétition géante, l'équipe de Laout en France ira la remettre aux politiques sur les plateaux télé et même pendant la manifestation anti. Et leur appel sur la pétition, c'est dimanche, la Manif pour tous revient avec une manifestation géante contre l'égalité à Paris et à Bordeaux. Elle redouble les attaques contre les gays et les lesbiennes. C'est, entre guillemets, personne dangereuse pour qui les enfants sont des objets et qui veulent créer des orphelins. Vous ne rêvez pas, ces mots viennent de leur appel à manifester. Déjà, plusieurs politiques ont annoncé soutenir eux aussi l'abrogation du mariage pour tous. Même l'ancien président Sarkozy leur fait des appels du pied. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de All Out et de signer la pétition. Je ne sais pas ce que ça changera, mais si, en tout cas, il y a différentes manières de voir les choses. Alors, nous, on relaye les informations.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place. Je dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Et bon, on va faire un bref détour par l'Italie où plein d'évasions ou tentatives d'évasion ont eu lieu dans les CIE et ça a commencé le 12 septembre au CIE de Trapani où quatre tenus ont profité d'un moment où il n'y avait pas de flics pour se faire la belle et ils n'ont pas été rattrapés. Le 15 septembre, encore à Trapani, C'est un seul retenu en solitaire qui s'est fait la malle, toujours en profitant de l'absence de flics. À croire que dans ce centre de rétention, les flics prennent des pauses café un peu longues, tant mieux pour les retenus. Le 19 septembre, au CIE de Caltanissetta, une tentative d'évasion avec 30 retenus a malheureusement échoué à cause de l'arrivée des anti-émeutes dans le centre, qui a été prévenu bien rapidement par la coopérative qui gère le centre de rétention. Le 20 septembre, encore à Trapani, 4 personnes se sont évadées, mais une personne s'est violemment cognée à la tête et a été transportée à l'hôpital. Personne n'a eu de nouvelles depuis, ni sur son état, ni si elle est toujours en Italie. Ou voilà. Et pour finir, le 21 septembre, c'est du côté du centre de rétention de Ponte Galeria à Rome, où 4 personnes ont tenté de se faire la belle, mais la tentative a échoué, et là encore, une des 4 personnes s'est blessée en tombant. A priori, ça n'avait pas l'air trop grave. Voilà, mais en tout cas, ça montre quand même bien la détermination des gens de se barrer de ces centres de rétention pour ne pas se faire expulser. Et quand même, les gens sont prêts à se faire sacrément mal pour pouvoir rester en Italie.
Il faut que ça se sache.
Eh bien, on va parler de Calais encore cette semaine. Quelques nouvelles plus courtes que d'autres semaines, où là, c'est de ségrégation au supermarché dont je vais parler. C'est une info qui date un peu, je ne m'en rappelle plus. Là, je n'ai pas la date exacte. Mais en tous les cas, ça ne change pas grand-chose parce que c'est une situation aussi quand même du quotidien. Donc voilà. Donc le Leader Price au bout de l'avenue Salengro à Calais, qui est derrière lequel est établi le camp de Soudanais depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, ce camp a été détruit 3 ou 4 fois, mais toujours reconstruit. Et la dernière fois, c'était en mars 2014. Et ce Leader Price a toujours été un supermarché où des exilés pouvaient faire des courses sans problème, ainsi que d'autres supermarchés dans la ville. Mais il y a quelques jours, un exilé s'est fait prendre pour vol, et résultat, la direction a donné ordre d'interdire l'accès à tous les exilés. Radical. Toutes les portes sont bloquées, sauf une derrière laquelle est postée un vigile qui contrôle les entrées au magasin. Et donc, après que des militants aient menacé la direction en parlant de racisme et de mesures discriminatoires et illégales, plusieurs quarts de flics arrivent, repartent, tentent d'arrêter des migrants, ils ont accepté de laisser rentrer les migrants un par un. Donc, faut bien rigoler. Ce qui est aussi discriminatoire et ressemble donc à des formes d'apartheid. Et des gens qui en ont eu marre ont déposé plainte. Et il semble que ce problème à Calais de discrimination à l'entrée de supermarchés concerne aussi d'autres supermarchés, notamment Auchan et Carrefour.
Il faut que ça se sache.
Alors, on va écoutez maintenant une interview de Nan, qui est coprésidente de l'asso Terre d'Errance, asso justement dans le Nord-Pas-de-Calais, qui vient en aide et soutient les personnes migrantes en transit sur l'aire d'autoroute de Nord en Fonte. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Bien sûr, donc je m'appelle Nan et je suis une des coprésidentes de l'association Terre d'Errance, qui est une toute petite association qui existe depuis 2008 et qui vient en aide, soutient les personnes migrantes en transit qui veulent aller en Angleterre et qui s'abritent le temps de ce transit dans un camp qui est lui situé à Nord-en-Fonte, qui est un tout petit village de 1400 habitants, qui se trouve le long de l'autoroute A26, dite autoroute des Anglais, qui mène d'Arras à Calais.
Tout
près Nour en Fonte, et c'est pour ça que les migrants sont à Nour en Fonte, le long de l'autoroute, il y a une aire de repos avec station essence, aire de repos dans laquelle s'arrêtent pas mal de camions en partance vers l'Angleterre. Et chaque soir, les migrants essaient de rentrer dans ces camions-là, dans l'espoir d'aller en Angleterre. Très souvent, malheureusement pour eux, très souvent, ils sont stoppés, alors soit directement sur le parking par la gendarmerie autoroutière, soit à Calais. Et quand ils se font arrêter à Calais, et ben après, une fois leur libération, c'est-à-dire très souvent immédiatement, une fois qu'ils se font prendre, et puis quelques fois ils doivent aller, ils sont emmenés au centre de rétention de Coquel, tout près de Calais. Ils retournent à pied jusqu'à la gare de Calais où ils prennent le train. On est à une heure et demie, ça dépend des horaires évidemment, jusqu'à Isberg. Et ensuite, ils font à pied toujours les 7 km jusqu'au camp de Nour en Fonte. Ce qui les épuise. Il y a des migrants de passage en transit, donc... à Nour en Fonte et à Saint-Hilaire-Côte, enfin dans cette partie-là du monde, depuis, alors selon la gendarmerie, 98-99. Je pense que très vite, des gens, des habitants les ont aidés, autour d'un curé notamment, qui s'appelle Papa Michel, et puis deux, trois anarchistes aussi, qui sont joints. Il y a un collectif d'aide qui s'est mis en place. Il s'agissait d'abord d'aide humanitaire, hein, d'amener de l'eau, des bâches pour se couvrir, pour se protéger de la pluie, des couvertures, etc. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une ville du tout. Nour en Fonte, c'est un village rural de 1400 habitants. Et du coup, il n'y a rien. Enfin, le seul point d'eau, c'est au cimetière. Il n'y a pas de toilettes publiques, il n'y a rien du tout. Et les migrants se cachaient, se terraient, se protégeaient, alors soit dans les tout petits bosquets, les réserves de chasse à Perdri pour les chasseurs, soit dans les fossés, les creuses, les trous de rétention d'eau, etc. Et au début, vraiment, il s'agissait vraiment du coup d'aide humanitaire, quoi. C'était apporter de l'eau, essayer d'organiser une à deux douches par semaine, bouger le plus de monde possible pour récupérer des habits, des chaussures, des manteaux, essayer d'aller dans les fermes pour récupérer des bâches, des palettes, etc. Enfin voilà, c'était vraiment de l'aide humanitaire d'urgence et dans des conditions catastrophiques. Mais petit à petit, les aidants sont devenus un peu anglophones. Il s'agissait vraiment d'aidants là qui avaient quoi, 50, 60 ans, leur cours d'anglais remontait au collège. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de discussions, de dialogues entre les migrants de passage et puis les gens du coin qui leur venaient en aide. Et effectivement, ils ont été rejoints par des personnes un peu plus jeunes qui étaient un peu plus anglophones, et grâce à ça le collectif a pu juste comprendre mais d'où étaient ces gens et pourquoi ces gens ne voulaient pas venir s'abriter chez nous et pourquoi ils voulaient absolument rester là près de cette aire de repos d'autoroute. Et c'est quelque chose quand même d'assez hallucinant, juste de savoir que dans les petits bleds paumés où il n'y a pas une personne sans domicile fixe, il y a des gens qui se terrent dans des fossés, quoi. C'était quelque chose de très difficilement compréhensible.
Mais justement, comment réagit la population de Nour en Fonte et d'Isberg ?
Elle réagit comme partout, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui nous disent « Ah, vous savez, moi je mets des bouteilles d'eau hein, devant ma porte hein, parce qu'ils doivent avoir soif à marcher comme ça pour retourner au camp quand ils viennent de la gare. » Il y a d'autres gens qui nous disent « Ah, bah oui, bah tiens, la dernière fois, j'en ai pris, marché, oh là là, ils étaient chargés. Bon, ben voilà, j'allais par là, je les ai pris dans ma voiture, j'ai fait un petit détour et je les ai emmenés. Les chiffres des élections sont ce qu'ils sont et on se fait absolument aucune illusion. Il y a aussi des gens qui sont très dérangés, qui ne veulent pas d'étrangers chez eux, etc. Hein, je pense que c'est assez c'est partagé. Et, le fait qu'il y ait un camp, je pense, ne modifie pas vraiment le taux de racisme ou le taux d'accueil des gens. On aimerait bien pouvoir le faire modifier dans le sens de l'accueil et de l'hospitalité. On y travaille un peu, on essaye, mais voilà, c'est pas évident et c'est un boulot de dingue. Pour Calais, c'est un peu particulier, hein, mais si on compte Calais comme une unité, parce qu'à Calais, il y a des squats, il y a plusieurs camps aussi, plusieurs jungles. Donc, mais si on compte Calais comme une unité, on peut compter 7 camps dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a Calais, évidemment. Et puis ensuite, les camps se situent un peu comme celui de Nouronfont, le long des autoroutes qui mènent à Calais. Et donc qui se rapproche de l'Angleterre. C'est-à-dire l'autoroute A26, l'autoroute des Anglais, qui fait Reims, Arras, Calais. Alors pour partir de Calais et en s'en éloignant, il y a un camp à Tattenghem, à hauteur de Saint-Omer, c'est la barrière de péage. Ensuite, c'est celui de Nouronfont, où il y a une aire de repos. Et il y a un autre camp encore à Angres, où il y a aussi une aire de repos le long de cette autoroute. Ensuite, on passe dans le nord, sur l'autoroute A25, qui relie Lille à Dunkerque. Il y a un camp à Steenvoorde, où il y a aussi une aire de repos le long de l'autoroute. Et puis après, c'est la jonction entre l'A25 et puis dans le Dunkerquois, au fait, et la 16. La 16, c'est l'autoroute qui rejoint Dunkerque à Calais, où il y a deux camps, dont Dunkerquois, dont deux ville moyenne qui s'appelle Tetteghem et Grande-Synthe. Les migrants qui passent par ces camps sont tous soutenus, aidés par par soit des collectifs, soit des associations. Avec la particularité que à Calais et dans le Dunkerquois, Tetteghem et Grande-Synthe, dans ces trois camps-là, il y a à chaque fois plusieurs associations qui viennent en aide à Saint-Omer aussi d'ailleurs. Il y a plusieurs associations ou collectifs qui viennent en aide et qui soutiennent les migrants de passage. Ailleurs, il y a à chaque fois une association ou un collectif. Nous ici, par exemple, c'est Terre d'Errance. Bon, en gros, l'aide est partout la même, hein. Il s'agit d'aide humanitaire. Localement, hein, selon les positionnements politiques des responsables, des élus locaux, selon aussi soit l'histoire de l'association collective, soit leur positionnement à eux aussi, il y a un volet politique, un volet de sensibilisation aussi, qui est plus ou moins travaillé, mais alors ça dépend de tout ce que je viens de dire, mais aussi de la disponibilité et du temps que peuvent donner les bénévoles à ça, quoi, parce que ça prend un temps fou. L'association s'est créée en 2008. En 2008, il y a eu des élections municipales qui ont vu se faire élire Marc Boulnois, qui est un élu vert. Avant lui, alors il me semble que c'était un monsieur Després, mais bon, les auditeurs s'en ficheront du nom de l'ancien maire de Nouronfont. Lui, il était très très hostile au camp et il demandait à la préfecture des expulsions systématiques, et il faisait aussi pression lui-même sur les propriétaires privés quand les migrants allaient s'abriter sur des terrains privés, quoi. Donc il y avait des expulsions tout le temps, ce qui n'empêchait pas les migrants d'être là, puisqu'ils sont là pour passer, et donc parce qu'il y a cette aire de repos qui est à 1 km à vol d'oiseau du village, quoi. Donc Marc Boulnois a été élu en 2008 en disant très clairement, hein, aux gens dans la campagne électorale, en disant moi, si je suis élu, je suis responsable de toute personne qui, enfin, je me sentirai responsable donc de toute personne qui habite sur le territoire de la commune, et donc je ne laisserai personne mourir de faim, de soif ou de froid dans ma commune. Donc il y a eu un très net changement quand Marc Boulnois est arrivé. Il a octroyé un terrain municipal pour que les migrants puissent s'y abriter et puis essayer de construire avec les bénévoles un abri un peu plus durable, du coup, même si très 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 précaire, hein. Il s'agissait de palettes, de bâches et de couvertures. Hein. C'est quelque chose de vraiment très très précaire. Mais c'était quand même beaucoup mieux que des ces mêmes bâches, ces mêmes palettes et ces mêmes couvertures qui étaient détruites systématiquement toutes les 3 semaines par la PAF auparavant. Donc ça a permis une stabilisation du camp et du coup une amélioration des conditions de vie. Et aussi, voilà, il a amené de l'eau aussi très rapidement, parce que jusque-là, l'eau était amenée par un bénévole qui prenait l'eau de la source chez lui et qui devait faire 3-4 allers-retours par jour pour pouvoir donner de l'eau aux personnes du camp. Pendant le mandat de Marc Boulnois, le camp a été détruit par la préfecture, parce que Marc Boulnois refusait de le détruire pour insalubrité, en disant, mais écoutez, oui, c'est insalubre, mais c'est la seule solution là pour l'instant qui existe, et donc il est hors de question que je détruise ce camp. La préfecture a tout de même détruit le camp, et avec la municipalité, l'association Terre d'Errance, donc on a décidé de reconstruire le camp. Le camp a été reconstruit au même endroit, dans de meilleures conditions. Ça reste très 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 précaire. C'est tout de même un petit peu mieux que ce que c'était avant. Ça ressemble à des abris de jardin, à des cabanes de jardin en bois. Chaque abri fait 30 mètres carrés. Le premier des abris tient lieu de cuisine, de salle commune. Et puis les 3 autres sont des dortoirs. Et au fait, vu l'espace qu'il y avait sur ce terrain communal, on a pu construire que ces 4 abris. Hier, ils étaient entre 40 et 50 personnes. Le nombre de personnes est très fluctuant. Ça dépend de ce qui se passe en Libye, en Italie, mais ça dépend aussi de ce qui se passe à Calais, avec la série des expulsions qu'il y a eu à Calais fin mai, tout début juillet. Le nombre de personnes a augmenté au camp, parce que au camp, on est un peu plus tranquille. Il n'y a pas de violence policière sur le camp même. Et du coup, les personnes viennent se réfugier là aussi, quoi. Ce qui est tout à fait compréhensible. En mars dernier, Marc Boulnois a perdu les élections. Il a été remplacé par un monsieur charmant qui s'appelle Bertrand Coq, et qui nous a dit très clairement, assez rapidement, que lui, de toutes les façons, il ne voulait pas de camp dans sa commune. Il est très clair avec ça. Après ça, il a beaucoup de mal à comprendre que, quoi qu'il en pense, quoi qu'il veuille, quoi qu'il accepte, de toutes les façons, il y aura des migrants de passage sur sa commune, tant que des gens devront fuir leur pays, et tant que les demandeurs d'asile seront maltraités en France, et tant que les gens ne pourront pas très clairement et très simplement choisir leur pays d'asile. Et tant que du coup cet endroit sera un endroit de passage, quoi. Tant que toutes ces conditions-là seront réunies et qu'il y aura une aire de repos près du village, il y aura des migrants de passage à nos rencontres. Il est persuadé qu'on est responsable, nous, association, du fait qu'il y ait des migrants.
La fameuse théorie de l'appel d'air.
Voilà. Et il nous a dit, et il nous répète, mais arrêtez donc de les aider autant. Voilà, quand on lui dit, mais écoutez, si vous trouvez que c'est tellement bien de vivre au camp à Nouronfonte, si vous trouvez qu'ils sont tellement bien aidés, mais venez-y passer vos vacances, venez vivre à Nouronfonte. Au camp de Nouronfonte, vous aurez une douche par semaine, super, 2 repas par jour, de l'eau froide pour faire la vaisselle, dès qu'on, vous serez soigné par une infirmière ou un médecin, au cul d'une voiture devant tout le monde, c'est génial. Donc voilà, ça c'est les conditions dans lesquelles nous on essaie d'aider les personnes migrantes du camp actuellement. Il nous dit que c'est un peu trop et que quand même les personnes, il est persuadé que les gens quittent l'Érythrée pour venir prendre une douche par semaine à Nouronfonte. On en est là. Je sais pas quoi lui dire, que répondre à des personnes comme ça. Alors lui il nous demande de il dit écoutez, ce camp a été prévu pour 30 personnes et donc vous devez faire en sorte qu'il y ait 30 personnes, comme si on avait le moindre pouvoir sur les migrations internationales. C'est très gentil à lui de le penser, hein, mais il nous met un petit peu trop sur un piédestal là pour le coup, et met la pression. Essaye de mettre la pression, en tout cas, sur l'association, en étant persuadé qu'on a un pouvoir infini, et sur les migrants eux-mêmes. Il allait les voir en disant, écoutez, vous devez être 30, parce que sinon, je couperai l'eau, et j'enlèverai la salle de stockage et de tri de vêtements à l'association, et puis, si ça continue et que vous êtes encore au-dessus de 30, eh bien, je demanderai la destruction du camp.
Et donc, il y a deux jours, ils ont coupé l'eau, le maire.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le maire nous a... Alors, ces super menaces, là, il nous les a faites fin août. On n'a pas voulu en parler et rendre la chose publique pour lui laisser la possibilité de ne pas les mettre à exécution, ces menaces. Lundi, avant-hier, il n'y a pas eu d'eau amenée au camp de Nouronfonte. Ce qui a évidemment obligé les bénévoles à faire des allers-retours à la source voisine pour pouvoir remplir les jerrycans. C'était là encore une activité charmante. Et il est passé sur le camp. Nous avons eu, comment dire, une petite altercation. Parce que la position, notre position, la position de l'association, c'était que on veut bien discuter, même avec un maire qui dit clairement ne pas vouloir du camp de migrants, etc. De toutes les façons, on pourra rien améliorer, on pourra pas améliorer la situation sans discussion. Nous, en tout cas, c'est notre croyance, enfin c'est notre position. Donc, on veut bien discuter avec lui, mais c'est pas possible de discuter avec quelqu'un qui fait du chantage à l'eau, quoi. Qui arrête de donner de l'eau à des gens. L'eau, c'est la vie. Et il est du coup prêt à laisser crever des gens de soif parce que ces gens ne lui plaisent pas. Et là, il y a juste pas de discussion possible. Donc, nous, on a répondu assez vivement. De vis-à-vis quand on l'a croisé sur le camp lundi, et puis auprès des médias, on a fait immédiatement appel aux médias, appel à nos soutiens aussi pour qu'ils appellent à la mairie pour demander qu'est-ce que c'était que ce bordel, et de demander d'exiger que l'eau soit à nouveau amenée au camp. Le fait est que mardi, les services techniques de la mairie amenaient à nouveau l'eau sur le camp. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. On espère vraiment qu'il ne va plus recommencer, parce que nous, on est prêts aussi à aller très très loin s'il en arrive à de telles extrémités à nouveau, quoi.
Combien vous êtes dans cet asso? Comment elle fonctionne? Il y a des salariés?
Ouh, non, pas du tout. On est loin d'avoir des salariés. Puis on n'en veut pas, je pense. Alors c'est une toute petite asso qui a commencé par un collectif de 5, 10, 15 personnes qui se mobilisaient, alors soit quotidiennement, soit d'une manière hebdomadaire pour les conduites aux douches. Il y a 5 bénévoles militants qui vont quasi quotidiennement sur le camp. Et puis après, si on élargit, il y a une vingtaine de personnes qui se mobilisent d'une manière hebdomadaire. Le positionnement de Terre d'Errance, c'est de ne pas demander de subvention. Une ou deux fois, il y a des élus locaux qui nous ont dit « Bon, si vous voulez une aide, on vous soutient, vous pouvez faire une demande de subvention, on peut débloquer 200 euros ou 300 euros même, ça poserait pas de problème. » On a toujours refusé ça. Nous, ce qu'on leur a toujours répondu à ces personnes, c'est « Écoutez, on n'a pas besoin de votre argent, on ne veut pas être institutionnalisé, on veut surtout pas se servir de faire-valoir et qu'un jour le moindre responsable politique puisse dire non, mais nous on donne de l'argent à l'association Terre d'Errance, donc ça veut dire qu'on s'en occupe. Non, nous ce qu'on leur demande à ces responsables politiques-là, à ces élus, c'est de prendre la parole, d'assumer. On leur dit, mais si vous nous soutenez, super, mais dites-le. Dites-le aux caméras, dites-le à vos administrés, parlez-en et dites ce que vous pensez. C'est juste ça qu'on leur demande. Après ça, évidemment, à d'autres niveaux, on leur demande de prendre, enfin, de, des engagements plus concrets, quoi. Comme, enfin voilà, par exemple, on a dû un peu batailler pour que la communauté de communes vienne ramasser les poubelles. Bon, maintenant c'est quelque chose qui roule. C'est pas grand-chose pour la communauté de communes. En comptant, enfin, en parlant de la salubrité, c'est aussi très 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 important. On fonctionne avec les dons qui arrivent régulièrement. Et puis là, par exemple, on se dit, bon, ça commence à être juste au niveau financier. Bon, ben, on va organiser un ou deux concerts. Et puis, tiens, la semaine prochaine, on participe à un marché aux puces. Bon, alors, c'est pas le marché aux puces qui va nous amener beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais c'est aussi l'occasion d'en parler. C'est aussi l'occasion de distribuer des tracts, de parler aux habitants du coin pour leur demander ce qu'ils en pensent, pour leur dire ce que nous, on en pense. Et puis, pour répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes. Parce que c'est pas complètement évident. Donc, nous aussi, notre rôle, c'est aussi... le rôle qu'on s'est donné, c'est aussi ça, c'est de sensibiliser la population, enfin de leur expliquer pourquoi il y a des gens qui vivent là dans les fossés, dans le village à côté du leur ou dans leur village, et puis aussi du coup d'élargir un peu la vue, de leur dire ben non, il y a des migrants de passage, il y en a pas qu'à Noirmoutier, il y en a pas qu'en France, c'est quelque chose, c'est une question qui dépasse largement l'espace communal, régional même ou national, et du coup c'est quelque chose vraiment à penser globalement et tous ensemble, quoi.
Ce Canu Info touche à sa fin et c'est l'heure de la traditionnelle rubrique de l'agenda. Et alors, et ben, comme on le disait tout à l'heure en début de Canu Info, appel à la manifestation du coup par rapport à la situation dont on parlait tout à l'heure, j'ai mangé le nom. À Kobané, pardon, voilà.
Oui, au Kurdistan.
Donc, samedi 15h à Belcourt, en solidarité à la résistance kurde assiégée par l'État islamique. Kobané, zone kurde syrienne, a pour projet de se faire vivre un projet démocratique qui respecte les différentes identités ethniques et féministes. Donc voilà, donc appel à, on vous convie grandement à vous rendre 15h à 15h samedi place Belcourt, parce que en vrai quand même la situation de Kobané est assez grave et Kobané peut tomber d'un jour à l'autre, et même là à l'heure où on parle on sait pas trop la situation actuelle. Et du coup face à cette urgence, il y a tous les jours jusqu'à ce samedi de 18h30 à 20h30 place de l'Opéra un rassemblement pour informer, pour visibiliser la résistance kurde dans cette région. Donc n'hésitez pas à passer là-bas, il y aura tout un tas d'infos, les gens seront ravis si vous posez des questions, si vous comprenez pas trop ce que c'est que le Kurdistan, cette espèce de... voilà, si vous comprenez pas, vous avez plein de questions, allez là-bas, ou si c'est juste pour soutenir, c'est très bien aussi, voilà.
Mais allez-y quoi. Sinon, il va y avoir un débat sur abolition des classes, abolition des genres, avec le groupe de lecture féministe matérialiste le jeudi 2 octobre à l'université. Alors je lis le rappel qui est un peu drôle. Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes? Qu'est-ce que le genre? Quel est le rapport entre l'exploitation des femmes et le système économique actuel? Quel lien entraîne lutte des classes et lutte féministe? Le patriarcat est-il une forme d'oppression, de domination, d'exploitation? Peut-on parler de mode de production patriarcale? Quelles sont les spécificités de l'exploitation des femmes dans les modes de production capitalistes? Peut-on lutter pour une perspective révolutionnaire sans lutter contre le patriarcat? Beaucoup de questions. Donc, après une brève définition des notions de classe et de genre, Leïla Witi, du groupe de lecture féministe matérialiste, introduira ce débat jeudi 2 octobre 2014 à, prenez l'heure, 18h30. Ça sera à l'université Lyon 2 sur les quais. Et donc il y a 4 bis rue de l'université. Et puis il faudra chercher pour trouver la salle. C'est toujours ça le jeu à l'université. Sinon, c'est pas tout de suite, mais ça sera la bibliothèque de la Part-Dieu le mardi 14 octobre. Il y aura la sociologue et romancière turque et activiste turque Pinar Selek qui viendra. Donc ça sera de 18h30 à 20h. Pour rappeler, donc c'est une féministe et anti-militariste. Et elle connaît depuis 1998 des persécutions en raison de ses travaux de recherche au sein de populations discriminées et victimes de violences. Donc les sans-domicile fixe, les prostituées, les travestis, les trans, les femmes, les tziganes et les kurdes. Et sinon aussi pour dire qu'il y a un collectif de solidarité avec Pinar Selek à Lyon. Donc si vous voulez plus d'informations ou que votre organisation, votre association veut faire partie de ce comité, il faut écrire à l'adresse suivante, tout attaché, comité Pinar Selek Lyon, c'est facile au final, @free.fr. Voilà pour l'agenda.
Et on va conclure ce Canu Info avec une très brève météo. Alors on vous prévient, il y aura un grand soleil jusqu'à dimanche avec des températures allant jusqu'à 24, peut-être même voire 25 degrés. Alors profitez de ces malheureusement derniers moments de soleil. Et en plus avec tout ça, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas aller à cette manifestation de ce samedi à 15h, place Bellecour.
Eh bien, c'est la fin. Ce qu'on peut dire, c'est que vous pouvez réécouter le dernier Canu Info sur le site Rebellion. Vous pouvez aussi le réécouter sur les blogs de Radio Canu.
Et ben on va vous laisser un tout petit peu en avance, le temps de que vous écoutiez un petit peu de bande continue, et à 8h tapante, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.